Annie. Première partie, chapitre 5. Jusqu'à minuit, Barinck resta au piano et, sans relâche, joua avec l'énergie et l'entrain d'un musicien de profession qui cherche à faire ajouter une gratification à son cachet. À l'entendre, on pouvait croire qu'il n'avait pas d'autre souci que le plaisir de ses invités, et cela même était relevé avec des commentaires où la sympathie manquait. « Il fait très bien danser, monsieur Barinck. »
« Avec un brio étonnant. Hein. »«
Surtout pour la circonstance. »
Madame Barinck m'a dit qu'il aimait tendrement son frère.
La pensée de l'héritage fait oublier celle du frère. Cependant, dans les courts instants de repos qui coupaient les danses, son visage s'allongeait, ses lèvres s'abaissaient, et quand Annie le regardait, elle lisait dans ses yeux la sombre préoccupation qui, plus d'une fois, lui eût fait oublier son rôle si elle ne le lui avait rappelé en posant simplement sa main sur le piano. Alors, il frappait bruyamment quelques mesures comme s'il se réveillait et se remettait à jouer jusqu'à ce qu'un nouveau repos laissa retomber le poids de cette préoccupation sur son cœur. Et sa pensée était toujours la même. Ne trouverait-il pas un moyen pour partir par le train du matin? Et parmi ces gens qui l'amusaient, n'en découvrirait-il pas un à qui il pourrait emprunter le prix de son voyage en Béarn? Vers minuit, le petit prodige, qui ne dansait pas, mais prenait plaisir à voir danser, s'endormit. Et sa mère, l'ayant étendu sur une chaise longue dans l'atelier d'Annie, voulut relayer Barinck au piano. Il eut alors la liberté d'approcher ceux dont il n'avait pu jusqu'à ce moment tâter que de loin la bourse, en même temps que la bonne volonté. Malheureusement, il avait toujours été d'une timidité paralysante pour demander quoi que ce fût, et les conditions dans lesquelles il devait risquer sa tentative la rendaient presque impossible pour lui. Parmi ces gens, il n'avait pas un ami, et il s'en trouvait même dont il ignorait le nom. Comment s'adresser à eux ? Leur expliquer ce qu'il désirait, les toucher. À la fin, il se décida pour la femme d'un inventeur de papier pharmaceutique avec laquelle il se croyait en assez bons termes, pour avoir maintes fois rendu des services au mari à l'office cosmopolitain. Riche maintenant, elle avait connu la misère assez durement pour que sa fille en fût réduite pendant 10 ans à chanter dans les plus humbles cafés-concerts. Et cela, s'imaginait-il, devait la rendre douce aux misères des autres. D'ailleurs, qu'était 100 francs pour elle? Décidé à risquer son aventure avec elle, il la conduisait dans le hall et là, pendant qu'elle dégustait à petites gorgées une tasse de chocolat que Barnabé lui avait servie, avec une hésitation qui étranglait ses paroles, il exposa sa demande. Mais précisément parce qu'elle connaissait la misère, elle avait acquis un flair d'une rare subtilité pour deviner au premier mot ce qui devait tourner à l'emprunt. Comment ce prétendu héritier en était réduit à risquer une demande embarrassée quand il pouvait parler haut? Certainement, il y avait là-dessous quelque chose de louche. À côté de l'héritier légitime, il y a bien souvent le légataire choisi. Il convenait donc d'être sur ses gardes. Il avait à peine parlé de son frère qu'elle l'arrêta. Vraiment, c'était héroïque d'avoir la force de faire danser ses amis en un pareil moment. Quel courage! Quelle volonté! Elle l'avait examiné au piano, et en voyant ses efforts pour se contenir, elle avait eu les larmes aux yeux. Ce n'était certainement pas elle qui, comme certaines personnes, s'étonnerait qu'on pût s'amuser en des circonstances si cruelles. Ainsi encouragé, il avait sans trop de circonlocution abordé la question d'argent. Alors, elle avait montré un vrai chagrin. « Quelle malchance,
de n'avoir que quelques menues monnaies dans sa bourse. Heureusement, cela pouvait se réparer. S'il voulait bien venir chez elle vers midi, elle se serait alors entendue avec son mari et il se ferait un plaisir de mettre à sa disposition toutes les sommes dont il pouvait avoir besoin. Si elle fixait midi, c'est que son mari, souffrant, ne se levait qu'après 11h30. Comme il avait eu soin de dire qu'il partait à 9h du matin, la défaite était assez claire pour qu'il ne pût pas insister. Il avait remercié et, le chocolat avalé, il l'avait ramené dans le salon, se demandant à qui, maintenant, s'adresser. Il tournait et retournait cette question, les yeux perdus dans le vague, quand Barnabé, qui circulait de groupe en groupe, son plateau à la main, lui fit un signe pour le prier de venir dans la cuisine. Il le suivit. L'embarras de Barnabé était si manifeste qu'il craignit quelque accident. « Qu'est-ce qui vous manque ? Avez-vous cassé quelque chose ?»« La grande carafe. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. » »« Alors ?»« Voilà la chose. Par ce que j'ai entendu, sans écouter, il paraîtrait que vous êtes dans les arias pour votre voyage. Si ce n'est que ça, je peux mettre demain matin 200 francs à votre disposition, et avec plaisir, monsieur Barinck, croyez-le. Quand tout le monde sera parti, j'irai les chercher et vous les apporterai. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Avant qu'il eût dominé son émotion, Barnabé s'était sauvé, son plateau à la main. Quand il reprit sa place au piano, ceux des invités qui s'étaient étonnés qu'il pût si bien les faire danser se dirent que, décidément, la joie d'hériter était scandaleuse. On pleure son frère, que diable ! Ou tout au moins, les convenances exigent qu'on ne se réjouisse pas publiquement de sa mort. Maintenant, il n'avait plus qu'un souci. Faire sa valise à temps pour ne pas manquer le train de 9h, car il ne pouvait pas compter sur sa femme, qui, morte de fatigue quand les derniers danseurs partiraient au soleil levant, n'aurait plus de force que pour se mettre au lit. Vers 3h du matin, on voulut bien encore le remplacer, et il monta à son cabinet, où, après avoir retiré habit et gilet, il atteignit une vieille valise en cuir qui ne lui avait pas servi depuis 15 ans. En quel état allait-il la trouver ? Elle était bien poussiéreuse, durcie, une courroie manquait, la clé était perdue. Mais enfin, elle pouvait encore aller tant bien que mal. Comme il ne devait rester à Ourteau que le temps strictement nécessaire à l'enterrement de son frère, il ne lui fallait que peu de linge. Une chemise, des mouchoirs, une cravate blanche. Mais il lui fut difficile de trouver une chemise à peu près mettable, et encore dut-il recoudre tous les boutons de celle sur laquelle son choix s'arrêta. Heureusement, son habit, son gilet et son pantalon avaient été réparés en vue de la soirée. Il serait décent pour conduire le deuil. Il n'entrerait point en misérable dans la vieille église où, en son enfance, il occupait près de son père et de son frère la place d'honneur, et n'aurait point à rougir de sa pauvreté sous les regards curieux de ses amis de jeunesse. C'est dans le monde où les bals se suivent et s'enchaînent qu'on arrive tard et qu'on part tôt. Dans celui où les occasions de s'amuser ne reviennent pas tous les soirs, on profite gloutonnement de celles qui se présentent. On arrive de bonne heure et l'on ne s'en va plus. Il en fut ainsi pour les invités de Madame Barinck. Quand le soleil se leva, ils dansaient encore. Il fallut pour les chasser le froid et la dure lumière du matin qui ne respecte rien. D'ailleurs, la faim se faisait sentir plus encore que la fatigue. Et depuis 2 heures, Barnabé, qui avait vidé les bouteilles et les soupières, gratté l'os du jambon, raclé l'assiette au beurre, n'offrait plus que du sirop de groseille noyé d'eau, ce qui était tout à fait insuffisant. Enfin, à 6 heures, le hall fut vide et le père, la mère et la fille se trouvèrent seuls en face l'un de l'autre, tandis que dans la cuisine, Barnabé se préparait à partir. Allons nous coucher, dit madame Barinck. Nous avons bien gagné quelques heures de bon sommeil.
Barnabé s'approcha de Barinck. Je reviens dans un quart d'heure, dit-il discrètement. Le temps d'aller et de revenir.
Mais bien qu'il eût parlé à mi-voix, madame Barinck l'avait entendu.
Pourquoi Barnabé veut-il revenir ? Demanda-t-elle à son mari.
Il eût préféré que cette question ne lui fût pas adressée, mais il ne pouvait pas ne pas y répondre.
Il dit donc ce qui s'était passé, sa demande, le refus qu'il l'avait accueilli, l'invention de Barnabé.
Madame Barinck leva au ciel ses mains tremblantes d'indignation.
« Emprunté à un domestique ! » s'écria-t-elle. « Il ne manquait plus que ça !»«
Barnabé s'est conduit en ami, » dit Annie en tâchant d'intervenir.
« Ne vas-tu pas défendre ton père ? »
s'écria madame Barinck.
« Tu ferais bien mieux de lui demander comment il compte rendre cet argent !»
Sans attendre que cet appel à l'intervention de sa fille eût produit un effet, elle se tourna vers son mari.
« Et quand veux-tu partir ? »
demanda-t-elle.
« À 9h30. »«
Ce matin ? » ?»«
Je n'ai que juste le temps pour arriver demain à l'heure de l'enterrement. » »«
Et tu nous laisses au milieu de ce désordre, sans personne pour nous aider ? » ?»«
Comment allons-nous nous en tirer ? Je suis morte de fatigue. »
« Pour cela, maman, ne t'inquiète pas, » dit Annie.
« Je n'irai pas à l'atelier aujourd'hui, et avant ce soir, tout sera mis en état. »«
Si tu prends le parti de ton père, je n'ai plus rien à dire. Adieu !»
Sans un mot de plus, elle quitta le hall pour monter au premier étage.
« N'emportes-tu rien ?» demanda Annie lorsqu'elle fut seule avec son père.
« J'ai fait ma valise cette nuit. » « Il l'est descendu. Je vais mettre mon habit dedans et serai prêt à partir. »«
Sans déjeuner ?»«
Barnabé m'a dit qu'il ne restait rien. »«
Je vais te faire du café. »«
Pendant ce temps, la porteuse de pain arrivera. »
Comme elle se dirigeait vers la cuisine, il l'arrêta.
« Tu ne vas pas allumer le feu, habillé comme tu l'es. »«
Ma robe n'a plus grand-chose à craindre, » dit-elle en se regardant.
En effet, elle était en lambeaux, déchirée aux entournures et surtout à la taille par les doigts gros des danseurs.
« Elle a le feu à craindre, » dit-il.
« Eh bien, je me déshabille et reviens tout de suite.
Tu ferais mieux de te coucher.
Crois-tu que je sois fatiguée pour une nuit passée à danser ?
À mon âge, cela serait honteux. »
Quand elle redescendit, elle trouva son père, qui avait revêtu ses vêtements de tous les jours, en train de boucler sa valise. Vivement, elle alluma un feu de braise et mit dessus une bouillotte d'eau. Puis, elle ouvrit la porte du jardin.
« Où vas-tu ? » demanda-t-il.
« J'ai mon idée. » Elle revint presque aussitôt, tenant d'un air triomphant un œuf dans chaque main.
« Il me semblait bien avoir entendu les poules chanter, » dit-elle.
« Au moins, tu ne partiras pas à jeun. »
« Deux œufs frais. » Une bonne tasse de café te remettront un peu des fatigues de cette nuit, d'autant plus dure pour toi qu'elle s'ajoutait à ton chagrin.
Pauvre père, je t'assure que je t'ai plaint de tout mon cœur et que plus d'une fois, je me suis reproché le supplice que je t'imposais en te faisant jouer ces airs de danse qui exaspéraient ta douleur.
Au moins, t'es-tu amusé ?
Je devrais te dire oui, mais cela ne serait pas vrai.
Tu as éprouvé quelques déceptions ?
Elle hésita un moment, non parce qu'elle ne comprenait pas à quelle déception son père faisait allusion, mais parce qu'elle avait une certaine honte à répondre.
J'ai été demandée en mariage plus de 10 fois depuis hier soir, dit-elle enfin avec un demi-sourire.
Eh bien ?
Eh bien, sais-tu à qui ces demandes s'adressaient ?
À toi, bien sûr.
À moi, ta fille ?
Non.
À moi, l'héritière de mon oncle ?
Oui.
Sur une parole de maman, mal entendue ou mal comprise, on s'est imaginé que la fortune de mon oncle allait nous revenir, et chacun a voulu prendre rang.
Et si ce qu'on s'est imaginé se réalisait ?
As-tu des raisons pour le croire ?
Le croire, non. L'espérer, oui. Car je ne peux pas admettre que Gaston, malgré notre rupture, ne t'ait rien laissé par son testament, toi, sa nièce, contre qui il n'avait aucun grief. Mais il n'a pas fait de testament. Alors, ce ne serait pas une part quelconque de sa fortune qui te reviendrait. Ce serait de cette fortune entière que nous hériterions. Que cela soit, je te promets que je n'épouserai aucun de mes prétendants de cette nuit. Les vilains bons hommes, hypocrites et plats.